Berton attrapa son gros dossier orange. Ils sortirent du bureau. Paloma s'apprêtait à descendre les 7 étages lorsque Berton posa la main sur son épaule. « Attendez avant de descendre. Je vous propose tout d'abord de monter un étage, jusque sur la terrasse.
« Pourquoi ?» plaisanta Paloma.
« On décolle en hélicoptère ?»
Berton sourit. L'escalier les mena jusqu'à une porte de verre qui s'ouvrait sur une immense terrasse. L'esplanade offrait une vue panoramique sur l'ensemble du site de Rouen.
« C'est magnifique, » reconnut Paloma. « Mais je croyais que l'on était pressé. »
« Ne vous trompez pas. Notre enquête commence ici, dans les pas de Lupin. »
« Lupin fréquentait Rouen ?»
Son père, Maurice Leblanc, est né à Rouen en 1864, 2 rue de Fontenelle, à quelques pas de la place du Vieux-Marché. Vous pouvez l'apercevoir, une vaste demeure qui fait angle avec les quais de Seine. Puis il habita le haut de la rue Jeanne d'Arc, puis, pas très loin, 4 rue du Bailliage, juste en face du musée des Beaux-Arts et du jardin Solferino.
« Le jardin Solferino ?» demanda Paloma. « Je n'en ai jamais entendu parler, il n'existe plus ?»«
Si, il a pris aujourd'hui le nom de Square Verdrel. Si vous êtes attentif, vous découvrirez une discrète plaque de marbre en l'honneur de Maurice Leblanc, rue du Bailliage. » Le jeune Maurice Leblanc fera toutes ses études au lycée Corneille, le grand lycée rouennais. Vous pouvez le repérer juste au-dessus de la place de l'Hôtel de Ville.
Paloma écarquillait les yeux. Le professeur continuait.
Au début de sa carrière, bien entendu, Leblanc ne rêvait que de gloire parisienne. À 26 ans, il ira même jusqu'à prendre le train Rouen-Paris pour pouvoir parler avec Zola, Goncourt, Maupassant et Mirbeau, qui était venu à Rouen inaugurer une stèle à la gloire de Flaubert. Mais par la suite, lorsqu'il sera devenu un auteur reconnu, il écrira beaucoup et avec émotion, avec mélancolie, à propos de Rouen et de sa jeunesse rouennaise.
Mais Lupin, c'est dans les pas de Lupin que nous devons marcher, pas dans ceux de Leblanc, non ?
Berton soupira. Vous êtes bien comme tous les lecteurs, seulement intéressés par Lupin. Et laissant Maurice Leblanc dans l'ombre, le pauvre. Ça a été le drame de sa vie. Il rêvait de marcher sur les traces de Flaubert et Maupassant. Et paradoxalement, il sera victime du succès d'un héros inventé par hasard qui lui volera la célébrité et la postérité. Savez-vous que la seule rue rouennaise qui porte le nom de Maurice Leblanc est reléguée loin du centre-ville, dans la cuvette boisée que l'on aperçoit au loin sous les tours de la Grand-Mare, le vallon suisse ? Inaugurée seulement en 1989. La rue Maurice-Leblanc est entourée de rues qui portent toutes le nom de cantons suisses. Quand on compare à la présence de Flaubert, Maupassant et Corneille dans le centre historique, même Mont-Saint-Aignan, Barentin, Tancarville possèdent des rues Maurice-Leblanc.
« D'accord, d'accord, » coupa Paloma. « Et Lupin, il était rouennais ?»«
Non, pas du tout. » Lupin serait né à Blois. Mais Lupin, dans ses aventures, passe plusieurs fois par Rouen pour se rendre dans le pays de Caux. Par exemple, dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, Lupin enlève Herlock Sholmes et le fait embarquer pour l'Angleterre face à Quillebeuf. Il traverse Rouen en voiture.
Berton jeta un coup d'œil vers les quais de Seine, regarda Paloma et récita d'une traite
« D'une colline à l'autre, de bon secours, raconte-le, Rouen, sa banlieue, son port, ses kilomètres de quai. Rouen ne sembla que la rue d'une bourgade. »
« Vous connaissez Lupin par cœur ?» demanda Paloma impressionné.
Berton haussa les épaules. « Je n'aime pas me vanter, mais je possède une excellente mémoire littéraire. Je n'oublie presque jamais un texte que j'ai lu, du moins un bon texte. »
Paloma n'arriva pas à trancher si c'était de la part du professeur de la prétention pure ou réellement un don extraordinaire.
« À part ces passages éclairs, » continua Berton, « 2 aventures d'Arsène Lupin se déroulent à Rouen. »«
Allez-y, » fit Paloma impatiente.
« La première, Le mystérieux voyageur, est la 4e nouvelle d'Arsène Lupin, publiée dans Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Une très étrange nouvelle. » Une des plus belles nouvelles de Leblanc. Une des rares aventures où Lupin se retrouve en difficulté.
Racontez.
Lupin prend le train Paris-Rouen à la gare Saint-Lazare. Il apprend que la police l'attend à Rouen. Pas de panique,
Il voyage sous une fausse identité avec de faux papiers. Mais dans le compartiment qu'il partage avec une jeune femme, alors qu'il s'assoupit, un mystérieux voyageur l'agresse, le ligote, lui vole son portefeuille et s'installe tranquillement dans son compartiment. De son côté, la jeune femme feint d'être évanouie. Arsène Lupin décompte alors avec angoisse les différentes gares sur la ligne, espérant que le mystérieux voyageur descende pour qu'il puisse essayer à son tour de se libérer. Mais les différentes gares défilent et l'homme ne descend pas. Vernon, Saint-Pierre du Vauvray. C'était une gare importante avant que l'on construise celle de la ville nouvelle de Val-de-Reuil. Puis Pont de l'Arche, Oissel, Saint-Étienne-du-Rouvray. Il n'y a plus de gare avant Rouen. Lupin est perdu. Paloma s'était assise par terre en tailleur. Elle écoutait Roland Bergton avec passion. Le train traverse la Seine. Vous voyez le pont de chemin de fer que l'on distingue là-bas, le plus en aval de la Seine ? Au dernier moment, dans le tunnel sous la côte Sainte-Catherine, le train ralentit. L'homme saute enfin du train.
Pourquoi ?
Des travaux sur la ligne.
Déjà à cette époque ?
Bergton sourit. Oui, vous voyez, rien n'a changé en un siècle. En quelques instants, avant d'arriver à la gare de Rouen, Lupin demande à la jeune femme de le libérer, se fait passer pour son ami, signale à la police, qui attend à la gare de Rouen, la présence du fuyard, et part même à sa poursuite dans une voiture accompagnée par deux policiers. Devinant que le voyageur va tenter de rejoindre à pied la gare de Darnétal pour prendre le train d'Amiens, il entame une course-poursuite avec le train. Vous voyez, toute l'action se situe dans la vallée du Robec, la vallée boisée que l'on devine au loin, plein est. Il rate son agresseur à Darnétal, mais il rattrape et double même le train avant la gare de Montérolier-Buchy.
Et alors ?
Course-poursuite dans un bois avant la gare. Lupin rattrape son agresseur, qui était en fait un assassin en fuite. Il récupère ses faux papiers et le livre à la police.
Paloma sortit du grand sac à dos qu'elle portait une carte de la Normandie.
Que faites-vous ?
Je note sur la carte tous les lieux dont vous me parlez.
Pourquoi cela ?
J'ai besoin de me repérer et je ne me rappelle que d'une chose de mes lectures de Lupin. La clé de l'énigme reposait sur la disposition des lieux entre eux.
Bergton la regarda avec admiration. Vous avez raison. La clé des énigmes de Lupin est presque toujours géographique. Je vous laisse tenir la carte.
Alors, continuez. La deuxième aventure ?
Elle est plus tardive. C'est l'une des 12 nouvelles du recueil « L'agence Barnett et compagnie, la partie de Baccarat ». C'est également une nouvelle assez curieuse qui se déroule dans le milieu des négociants et industriels de Marôme. Un milieu que Leblanc décrit sans complaisance. Son père, Émile, était lui-même négociant et destinait son fils à la même vocation. Mais le jeune Maurice n'apprécia jamais beaucoup ce milieu. Il s'y essaya sans succès. D'ailleurs, dans toutes les aventures de Lupin, les bourgeois, banquiers, industriels se font ridiculiser et détrousser par Lupin de toutes leurs économies.
Et de leurs femmes aussi. Revenez à Lupin.
Justement, dans cette aventure, Lupin prend les traits de Jim Barnett, un curieux détective privé. Leblanc précise qu'elle se déroule dans une vaste maison dont une fenêtre donne sur les quais de Rouen.
Bergton désigna devant lui l'immense site portuaire de Rouen.
Aujourd'hui, l'activité portuaire a presque entièrement disparu de la rive droite de Rouen. Mais à l'époque,
Paloma regarda sans intérêt les friches portuaires.
Bergton s'en aperçut. D'accord, je termine mon histoire. 5 négociants jouent au baccarat toute la nuit. Après la partie, le dernier joueur resté dans la salle de jeu y est retrouvé mort au petit matin. On accuse le voisin, le seul à avoir pu entrer. Sa veuve éperdue s'en remet à Jim Barnett, alias Arsène Lupin.
Et alors ?
Lupin Barnett prouvera que le voisin n'y est pour rien.
Qui avait fait le coup alors ?
L'un des joueurs. Mais l'astuce de cette nouvelle est que tous les autres joueurs qui avaient beaucoup perdu d'argent ce soir-là se couvrent mutuellement pour récupérer leur mise et éviter le scandale.
Ingénieux. C'est une astuce que beaucoup d'autres auteurs policiers reprendront par la suite. Y a-t-il d'autres aventures rouennaises ? Non, juste quelques lieux cités. Leblanc signale des cambriolages de Lupin à Montigny et la Vaupalière, au nord-ouest de Rouen. Le brigadier dans l'aiguille creuse s'appelle Quévillon. C'est le nom d'une petite commune en bord de Seine, au sud de Rouen. Et enfin, Arsène Lupin finit ses jours dans la commune imaginaire de Saint-Maclou, le même nom que la plus belle église de Rouen. Paloma nota avec minutie tous les noms de lieux cités. « C'est tout pour Rouen, chère Paloma, » fit Bacton. « Mais j'aurai beaucoup de choses à vous raconter, et bien plus mystérieuses, là où nous nous rendons. »«
Étretat ?» demande Paloma avec des yeux pétillants.
« On ne peut rien vous cacher. »
Ils admirèrent une dernière fois le spectacle magnifique du méandre de Rouen. Puis, ils redescendirent de la terrasse par l'ascenseur. Pendant la courte minute que dura la descente, un silence un peu troublant s'insinua entre le professeur et l'étudiante. Paloma ne savait strictement rien de la vie privée de l'illustre chercheur. D'ailleurs, elle ne se sentait aucunement amoureuse de lui. Simplement, sa culture la fascinait. Se retrouver à partager avec lui une telle aventure la gonflait de fierté. Ses mystères autour de Lupin commençaient à l'obséder. Cela dit, il ne lui aurait pas déplu que le docteur professeur soit un peu troublé par sa féminité. L'ascenseur s'arrêta directement au sous-sol. Il n'y avait qu'une seule voiture garée dans le parking souterrain. Une Maserati 4200 Spider, grise, flambant neuve, décapotable bien entendu. Paloma siffla. « C'est la vôtre ?» En guise de réponse, Roland Bergton fit clignoter les phares de la voiture avec son porte-clés électronique. « Ça doit bien rapporter, prof de fac. » Bergton sourit.
« Ce sont plutôt les droits d'auteur qui assurent mon train de vie.
Et que voulez-vous aujourd'hui si vous voulez épater les étudiantes ? Une belle voiture est plus utile qu'une longue liste de publications.
Allons, allons, » fit Paloma, moqueuse.
Un intellectuel renommé comme vous possède d'autres préoccupations que d'épater les étudiantes. Cela dit, partir en mission avec vous en Maserati ne gâche rien.
Ils démarrèrent en trombe, descendirent de Mont-Saint-Aignan, longèrent les quais de Seine pour rejoindre ensuite l'autoroute A29 au cœur du pays de Caux, en direction d'Étretat. Paloma fermait les yeux pour mieux jouir du bonheur de l'instant. Roberto Martinez, en même temps que sa baguette de pain quotidienne, acheta le courrier cauchois. Dans la rue, il commença à lire distraitement le journal. Il marchait d'un pas décidé. À 75 ans, Roberto Martinez était encore en parfaite santé. Il s'arrêta soudain sur un petit entrefilé dans les pages locales. On signalait que quelques touristes prétendaient avoir trouvé sur l'estran de Saint-Valery-en-Caux des pièces d'or. Roberto Martinez sentit son cœur s'affoler. S'asseoir. Il lui fallait s'asseoir. Le banc de l'abrébus lui permit de reprendre son souffle. Il relut l'entrefilé. Il n'y avait pas de doute. Seul pour lui-même, il prononça ces mots. Il ne faut pas qu'il sache. Il ne faut pas qu'il sache à aucun prix. Il se replongea dans le journal et son regard s'arrêta sur le numéro de téléphone de l'Office du tourisme de Saint-Valery-en-Caux.